Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est un des tableaux impressionnistes les plus connus au monde. Une jeune femme blanche, le pied gauche chaussé d'une mule, allongée sur un divan avec un châle de cachemire blanc. Elle est nue, mais ce qui fit scandale lors de sa présentation à Paris en 1865, ce fut son regard. Un regard si réel et si sérieux qu'il évoquait, disait-on, celui d'une prostituée de luxe et pas celui d'une déesse ou d'un personnage de la mythologie, comme les contemporains de l'artiste en avaient l'habitude lorsqu'il s'agissait de nus. C'est ainsi que l'Olympia d'Edouard Manet entra dans la légende de la peinture occidentale. Ce tableau, la chorégraphe Gaëlle Bourges s'en est emparée, mais elle a détourné le regard sur l'autre femme de la peinture, celle qui se trouve au second plan. Une femme noire, sans doute une domestique, qui présente à Olympia son bouquet de fleurs et sur celle qui a servi de modèle au peintre. Et avec quatre performeuses qui construisent et déconstruisent sur scène plusieurs tableaux de maître, elle a fait un spectacle qui explore notre rapport à l'art et aux représentations du corps dans l'art, et singulièrement du corps noir, telles qu'elles ont été construites par l'iconographie occidentale. La bande à Laura, un spectacle à découvrir entre autres dans le cadre du festival d'automne du 1er au 5 décembre au Théâtre de la Ville Les Abbesses, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Gaëlle Bourges.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes venue avec une des danseuses du spectacle, Noémie Makota. Bonjour.
Bonjour.
Merci aussi à vous d'être là. Alors, ce n'est pas la première fois, hein, loin s'en faut, Gaëlle Bourges, que la peinture et l'art en général se retrouvent au cœur d'un de vos spectacles, qu'il s'agisse des Cariatides, dans le spectacle qui est aussi à l'affiche du Festival d'automne qui s'appelle OVTR, on va tout rendre. Des tapisseries avec des spectacles comme À mon seul désir ou Ce que tu vois, et même des peintures rupestres avec une œuvre autour de la grotte de Lascaux. D'où vient votre intérêt pour les beaux-arts?
Une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Ça commence très mal.
Ah bah oui. Dommage. Merci
pour
de
vous.
M'encourager.
Non mais c'est, je ne sais pas.
C'est vraiment un élément majeur de vos créations.
Oui.
Vous n'êtes jamais posé la question d'où ça vient?
Bah non.
Vous avez une formation vous-même d'artiste pictural?
Pas du tout. En plus, non, j'ai vraiment une formation en danse. J'ai beaucoup été dans les musées à partir de l'adolescence, et c'est plutôt mes visites au musée et l'observation que je me suis faite très vite, qui est qu'il y a beaucoup de femmes nues dans l'art occidental et beaucoup d'artistes hommes, qui m'a fait me pencher sur la question. C'est plutôt l'inégalité de modèles femmes et d'hommes artistes qui m'ont mis une sorte de puce à l'oreille, qui m'ont donné envie en fait de commencer à faire des spectacles sur cette question-là.
Et donc, vous avez beaucoup quand même fréquenté les musées, les galeries d'art en général, mais surtout pour l'art justement qui date d'une certaine époque, puisque là, on est vraiment entre l'Antiquité et l'impressionnisme.
Plutôt même la préhistoire.
La
préhistoire jusqu'au 19e, c'est vrai que je ne m'attelle pas encore, peut-être ça viendra à l'art moderne et contemporain.
C'était la question suivante.
Voilà. En fait, je vais beaucoup voir d'expositions. Et donc, effectivement, j'aime beaucoup l'art contemporain. Alors, ça ne va pas dire grand-chose de l'art contemporain. Il y a plein de sortes de... Il y a différents mouvements. Mais ça me semble... Disons que moi, j'aime bien m'attarder sur les représentations anciennes des corps. Et tant mieux, d'ailleurs, elles changent aujourd'hui. Donc, il y aurait peut-être moins de choses à dire, quoique, sur comment on représente les corps aujourd'hui. D'abord, c'est moins figuratif aussi. La peinture, quand même, arrête d'être figurative après Cézanne. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment on se représentait, les hommes et les femmes, dans les époques antérieures à la nôtre, puisqu'elles peuplent nos imaginaires, en fait.
Alors, les corps, dans la peinture, ils sont figés. Vous, la chorégraphe, ce qui vous intéresse de montrer au public, ce sont des corps vivants, on peut dire ça comme ça?
Oui, d'ailleurs, d'où le problème, souvent, parce que quand on montre des corps nus en peinture, ça a choqué à l'époque de Manet, mais aujourd'hui, quand on voit au musée du Louvre, il y a peu de gens qui hurlent devant les corps nus. Même le Christ est nu sur la croix. Il n'y a personne qui part en courant, en criant au scandale. Par contre, quand on se met tout nu, nous, sur un plateau et qu'on bouge, ça bouge les lignes, justement. Il y a évidemment un glissement très grand entre un corps qui est représenté en deux dimensions, avec de peinture ou de laine et de soie, quand c'est le cas de la tapisserie, et des vrais corps en mouvement. Mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est l'altérité plus grande qui arrive par des corps qui sont vraiment nus devant les spectateurs. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans la bande à Laura.
Non, alors justement, on va y venir justement. Mais c'est vrai que bouger les lignes, changer de regard, changer de focale, c'est vraiment comme ça que vous travaillez. Gaël Bourges, au cœur de ce spectacle, il y a donc, je le disais en introduction, un tableau très connu, hein, peint en 1863, un tableau qui a fait scandale quand il a été exposé 2 ans plus tard au Salon de Paris, l'Olympia de Manet. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce tableau, avec vos mots à vous, Noémie Makota, vous qui avez participé pleinement à la création de ce spectacle de danse.
Alors, je dirais que moi, ce qui m'a profondément marqué la première fois que je l'ai vu au musée, c'est déjà la présence des peaux. Enfin, il y a quelque chose où Manet peint les peaux d'une manière très très charnelle. Enfin, il y a quelque
donc
chose de très vivant.
Les peaux, P-E-A-U-X, hein, parce qu'on est à la radio, donc précisons-le. Ouais, donc la peau blanche d'Olympia et la peau noire du personnage
de
qui est
Laure, qui est derrière.
De Laure, qui est derrière.
Oui. La modèle derrière. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est un tableau dont on entend souvent parler. Et dans nos imaginaires, on se représente beaucoup la modèle devant qui est nue. On retient beaucoup ce personnage-là. Et alors qu'en fait, le personnage de la femme noire, donc qui est la modèle et Laure, en fait, est très présente sur le tableau quand on le voit en vrai. En fait, elle n'a pas du tout une place si secondaire qu'on peut le dire, en fait.
Mais ça, vous avez capté tout de suite, dès que vous avez vu le tableau. Vous connaissiez le tableau avant de travailler avec Gaël Bourges,
oui.
J'imagine.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que elle vous a incité à regarder le tableau différemment au début du travail?
Ouais,
qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement?
En fait, avec Gaël, il y a tout un travail qui est très intéressant où, en fait, nous, en tant qu'interprètes, on est amenés à faire des recherches sur les tableaux qu'on va étudier, qu'on va danser, sur lesquels on va poser. Et donc, nous, on a déjà aussi fait toute une recherche sur ces tableaux. Donc déjà, Gaëlle aussi, elle nous a fait visiter le musée. Et rien qu'à l'entrée de la visite du musée, elle nous dit « Faites attention, regardez qui est-ce qu'on voit, quel peintre est mis en valeur, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes femmes au musée d'Orsay ?» Donc, il y a déjà toute cette manière-là dont elle aborde l'histoire de l'art, qui n'est pas seulement la peinture elle-même, mais même l'institution dans laquelle on voit l'œuvre d'art, en fait.
Alors, précisément, donc, effectivement, le musée d'Orsay. Alors, Olympia de Manet, c'est un tableau qui était déjà à Gaël Bourges dans un de vos précédents spectacles, à La Belle Indifférence. Et c'était aussi l'une des œuvres phares, peut-être même l'œuvre phare de l'exposition sur le modèle noir qui a eu lieu au musée d'Orsay à partir de mars 2019. On en a beaucoup parlé déjà à cette époque dans cette émission. Et à ce moment-là, j'avais interrogé l'une des commissaires de l'exposition, Isolde Pludermacher, sur la femme qui se trouve justement au second plan.
Tout le projet de cette exposition est né aux États-Unis d'un travail de recherche de Denise Murrell qui, en fait, a été frappée par l'absence de commentaires concernant quand même une des deux seules figures du tableau, à savoir la figure de cette servante. Et en effet, tout le scandale s'est concentré sur la figure de la femme blanche posée par Victorine Meurent, en ce sens qu'elle incarnait une réalité très contemporaine qui était celle de la courtisanerie dans le Paris du Second Empire.
Donc de la prostitution.
De la prostitution de haut vol. Et d'ailleurs, la servante, si elle n'a pas été tant commentée, a tout à fait son rôle dans la scène. Puisque à l'époque, avoir à son service un ou une domestique noire ou une nourrice noire était un signe extérieur de richesse et était réservé plutôt à l'aristocratie ou à la haute bourgeoisie.
Alors que sait-on du modèle ?
Alors on savait déjà qu'elle s'appelait Laure parce que le biographe de Manet, Tabaran, en 1947, avait transcrit un carnet de l'artiste dans lequel il était indiqué « Laure, très belle négresse ». 11 rue Vintimille. Et comme le carnet date à peu près de la même année qu'Olympia, on s'est dit qu'il était très vraisemblable que ce soit le prénom de ce modèle. Et nous exposons pour la première fois ce carnet que l'on pensait être perdu juste à côté d'Olympia. Donc, et on sait finalement très peu de choses d'elle, si ce n'est qu'elle a peut-être posé pour un autre tableau que nous montrons dans l'exposition, qui représente une nourrice noire et une nourrice blanche. Donc peut-être était-elle nourrice. Et nous avons aussi fait des recherches dans les archives, au cadastre, à la ville de Paris, qui indique la part de loyer qu'elle payait au 11 rue Vintimille, puisque nous avons retrouvé l'or dans ce cadastre, et aussi quel était son environnement social, qui habitait avec elle dans le même immeuble, à savoir un milieu de commerçants modestes et d'ouvriers.
Extrait de l'émission du 27 mars 2019, et je crois, Gaëlle Wourche, que cette exposition au musée d'Orsay a été une sorte de déclic. On peut dire que c'est grâce à elle que vous avez eu l'idée de la bande à Laura.
Oui, parce que j'étais très émue d'apprendre enfin un bout d'identité de la personne à l'arrière, puisqu'effectivement, comme le dit Noémie, les deux femmes sont très importantes. Il y a d'ailleurs Manet, en plus, fait une opération très importante par rapport à la Vénus d'Urbino du Titien, qui le reprend, qui consiste à aplatir complètement l'espace du fond qu'il y a dans le tableau du Titien et de mettre les deux caméristes du Titien, qui sont à Venise au XVIe siècle, totalement à coller au lit derrière. Donc quand on voit le tableau au musée d'Orsay, les deux femmes éclatent à la vue, en fait. Et elles sont, et leur peau, effectivement, le travail de la couleur chez Manet, c'est, d'ailleurs, ça n'existe pas, les peaux blanches et les peaux noires. La peau de Victorine est rosée. Enfin, il faudrait vraiment avoir un vocabulaire de peintresse que moi, je n'ai pas, en tout cas, ou de peintre. Et la peau de l'or est dorée. Enfin, voilà, il y a tout un travail très fin et qui est effectivement éclatant à l'œil. Donc, il y a déjà un rapport très fort de Manet à ces deux femmes qui sont, en tout cas sur un plan pictural, sont à l'égalité. Elles sont toutes les deux, d'ailleurs même, je dirais que l'or est presque plus au centre du tableau que le visage de l'or est presque plus au centre que le visage de Victorine Meurent. Et donc de savoir qu'on savait depuis très longtemps, alors peut-être moi je ne suis pas historienne de l'art, donc peut-être je serais tombée sur l'information bien avant 2019. Mais ne l'étant pas et surfant comme la plupart d'entre nous sur Internet, en tout cas ces dernières années, en tout cas au moment où j'ai fait La Belle Indifférence, je n'ai trouvé que l'identité de Olympia, qui est Victorine Meurent, qui est déjà une femme très intéressante aussi. Hein. Et donc là, d'apprendre que c'était une femme prénommée Laure, qui n'avait pas de nom de famille aussi, peut-être à cause de la colonisation, on ne sait pas. En tout cas, cette femme a un prénom, une adresse, et on a en tout cas son environnement social, donc on peut présumer de ce qu'elle était, mais peut-être qu'elle était aussi, en tout cas, elle était modèle. Donc ça veut dire certainement, il faut faire la démarche quand même d'être modèle au 19e siècle. Peut-être elle-même avait une pratique artistique. Et je me suis dit, il est temps de se remettre au travail sur Olympia et de donner à voir, alors justement, pas tant seulement l'identité de Laure qui est partielle en plus, mais l'identité des deux femmes qui ont posé, qui sont encore, qui nous regardent encore depuis leur tableau aujourd'hui. Donc Manet reste très connu, mais ces deux femmes continuent de nous regarder, on continue de les rencontrer en tout cas.
Moi je t'aimais pour ce que tu étais, et je t'ai donné tout ce que j'avais. Mes qualités et mes défauts, mais tu en avais une autre dans la peau. Je n'avais pas compris que jamais je ne ferais le poids dans son esprit. Oh mon chéri, lorsqu'on nous voit, personne ne peut douter. Dans votre coquille, t'avais qu'à assumer, tu jouais. Ça m'aurait évité d'impliquer ma famille. Tu m'as menti, tu m'as trahi, et je devais vivre dans l'ombre d'une autre chérie. Lorsqu'on nous voit, personne ne peut douter.
Petit Panda, l'ombre d'une autre dans VMDN sur RFI, une émission avec la chorégraphe Gaëlle Bourges et la danseuse Noémie Makota autour du spectacle La Bande à Laura. Pourquoi Laura et pas Laure d'ailleurs, Gaëlle Bourges? Ah, vous avez l'habitude de cette question.
Noémie, ça fait débat.
Ça fait débat. Ça, c'est intéressant parce que c'est important le titre d'un spectacle. C'est sur l'affiche, c'est ce qui donne envie ou pas au public d'aller voir. C'est une sorte d'étendard. Alors, pourquoi vous avez beaucoup ri, la Noémie Makota? Visiblement, quand vous dites ça a fait débat, ça veut dire que ça n'a pas été facile de trancher.
Voilà, c'est ça. Non, on a eu beaucoup de discussions justement autour de ça la première semaine de résidence où, sur le projet s'appelait Laure au début parce qu'on faisait beaucoup de recherches sur elle. Mais en fait, en première semaine de résidence, je me rends compte quand on entend parler Gaëlle, qu'elle parle beaucoup aussi de Victorine Meurent, des femmes artistes du 19e siècle, et qu'en fait, le spectacle touchait à quelque chose, à des questions beaucoup plus larges que seulement la modèle Laure. Et donc, on devait vite changer les noms. On se disait, on ne peut pas l'appeler Laure parce que tout le monde va s'attendre à un spectacle que sur Laure, alors qu'en fait, le spectacle vraiment aborde d'autres questions. Et Gaëlle est revenue longuement en disant on l'appelle Laura, Olympe, Olympia, Laure, Laura, enfin voilà. Et ensuite on a trouvé finalement je crois la veille ou le jour même ou la veille de la première la bande à Laura. Et en fait, il y a une journaliste qui a écrit un texte en disant à la fin on fait toute partie de la bande à Laura. On a dit c'est bon, c'est ça notre titre.
On peut voir le portrait de Laure aujourd'hui encore. Il est accroché sur les murs d'une fondation privée. Le musée est sur le toit de l'ancienne usine Fiat, à Turin, en Italie. C'est un célèbre architecte qui l'a dessiné. Il abrite la collection d'art personnel du patron de la grande marque de voitures italienne, Gianni Agnelli. Ses descendants en ont hérité. C'est marrant. C'est comme si les voitures et la peinture allaient bien ensemble. C'est vrai que Manet vivait à l'époque des premières automobiles à vapeur. La révolution industrielle n'a pas libéré le monde. Elle a juste marié l'art et l'industrie.
Portrait de Laure, Édouard Manet, 1862-1863. Huile sur toile, collection privée. Pinacothèque, Giovanni et Mirella Agnelli, Turin, Italie.
Premier extrait de la voix off que l'on entend d'un bout à l'autre du spectacle. Alors j'ai plein de questions sur la voix off, Gaëlle Bourges. Pourquoi une voix off, tout simplement?
Mais pourquoi pas?
Oui.
Pourquoi pas?
Oui, il n'y a pas des voix off dans tous les spectacles de danse contemporaine du Festival d'automne.
Oui, bien sûr.
On est d'accord.
Mais il n'y a pas
toujours... pas la première fois que vous utilisez cette.
Non, c'est pas la première fois. Mais il n'y a pas toujours de la danse dans tous les spectacles de danse du Festival d'automne.
Non plus. Non plus.
Non, je me défile un petit peu, mais c'est vrai que ça fait un longtemps maintenant que je n'imagine plus dans un spectacle de danse, enfin dans les miens en tout cas, qu'il n'y ait pas de texte, de récit. Alors pourquoi c'est comme pourquoi les beaux-arts,
Oui.
Si vous étiez psychanalyste, vous auriez plus de chances, je pense, de savoir.
D'accord. Alors on n'a pas encore eu l'idée d'installer un divan dans ce studio, mais il va falloir y penser.
Dommage. Je trouve que vous avez du rouge et c'est bien un divan rouge.
Absolument,
comme ça.
Absolument. Vous avez raison. Donc pourquoi la voix off, on ne saura pas exactement, mais alors je vais insister quand même parce que le problème d'un journaliste, c'est que c'est un moment quand il mord un hameçon, il n'en est mort pas. Hein. Vous auriez pu l'incarner sur le plateau, ce texte, ou le faire incarner par une des danseuses ou mettre un cinquième performeur ou une cinquième performeuse sur le plateau. Ce n'est pas le choix que vous avez fait.
C'est vrai. Et c'est un choix que j'ai pu faire dans d'autres spectacles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une évidence, la voix off. Par contre, personnellement, j'aime beaucoup les voix off parce que j'ai découvert ce système de diffusion d'un récit dans le cinéma de la Nouvelle Vague, qui n'est pas de ma génération, parce que je naissais à peine quand il se fabriquait, mais je l'ai vu plus tard. Et ça m'a absolument enchantée, ces voix, notamment dans La Jetée de Chris Marker, les films de Godard, les films de Marguerite Duras. Il y a des voix off, les films d'Alain Resnais aussi. Peut-être je me trompe, parce que je ne sais plus exactement, mais je me souviens vraiment de voix, quelque chose à l'écran et une voix qui parle, qui n'est pas un acteur ou une actrice qui parle en direct. Et ça renvoie pour moi aux lectures d'histoires quand on est petit. Moi, j'ai la chance que mes parents me lisaient des histoires. Et je crois que j'ai aimé, sans m'en rendre compte, m'endormir avec le son d'une voix dont j'oublie même ce qu'elle raconte, qui c'est, et je plonge dans l'obscurité.
Sauf que là, dans l'extrait qu'on a entendu, le ton qui est employé par la lectrice ou la récitante, je ne sais pas quel est le mot juste, ce n'est pas du tout un ton de conteuse. C'est un ton qui rappelle l'écriture d'un cartel dans un musée. Et la fin de l'extrait semble le prouver, Gaëlle.
Alors, c'est deux voix différentes. Hein. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, cher journaliste.
Mais allez-y, vous avez le droit.
Bah, de toute façon, c'est tellement subjectif, la perception qu'on a d'une voix. La voix. Alors, après, c'est très difficile. Pour moi, c'est ma voix en voix off. Donc, c'est très difficile de savoir ce que ça produit. Mais quand même, je travaille beaucoup cette voix. Et j'ai l'impression que je suis quand même une récitante. Enfin, qu'il y a quelque chose vraiment de très...
théâtral?
Pas du tout,
vous
justement.
Vous n'avez pas le mot théâtral?
Alors, pas du tout. Parce que ce n'est pas du tout théâtral, comme voit justement. Ou alors le théâtre de Claude Régis, qui n'était pas du tout un théâtre déclamé,
non,
par exemple.
Non, pas du tout.
C'est plutôt une voix qui lit, en fait. Je lis un texte et j'y mets le moins de ton possible. Alors, je
c'est
triche
pour ça
un
que
peu.
Je vous demandais si c'était une voix de récitante ou de lectrice, oui.
Bah alors, voilà, c'est une lectrice. Enfin, je lis mon texte, parce que je serais incapable de l'apprendre par cœur. Mais même quand je le performe sur scène, d'ailleurs, au micro, je le lis, parce que j'ai dû vraiment un mal fou avec apprendre par cœur. Mais j'essaye d'être dans un détachement très grand, qui est le détachement des performeurs, performeuses, d'ailleurs sur le plateau, qui est une espèce de lenteur détachée. Et donc, pour que les gens puissent vraiment s'endormir, vraiment, ça ne me dérange absolument pas que les gens s'endorment. Et d'ailleurs, beaucoup de gens s'endorment.
Ah oui, ça vous rassure quand le spectateur s'endort.
Bah, c'est
un compliment.
Ah,
d'accord.
J'ai bien dormi à ton spectacle, c'est un compliment.
Décidément, vous n'êtes pas une chorégraphe comme les autres, Gaëlle Bourges.
Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, on sent vraiment que ce texte a été pensé de bout en bout, travaillé. On a vraiment l'impression que vous avez pesé chaque mot, chaque tournure au trébuchet. Comment est-ce que vous l'avez construit et rédigé, ce texte?
Avec beaucoup de peine, déjà. C'est le texte de spectacle qui m'a le plus demandé de travail. Parce que j'écris donc à chaque fois des textes plus ou moins longs pour chaque spectacle. Celui-là était particulièrement corsé. J'ai cru que je n'y arriverais pas, très sincèrement. Je l'ai fini comme le voilà. Tu disais, Noémie, on a trouvé le titre la veille de la première. Eh bien, le texte, je l'ai fini l'avant-veille, peut-être, c'est ça?
Ah oui.
À peu près.
Et vous avez eu votre mot à dire, vous, Noémie Makota, et avec vous, les autres performeuses, sur le texte, justement, sur la façon dont il était construit, sur le choix des mots, sur la façon dont il accompagnait le spectacle?
Tout à fait. Bah, la chance qu'on a, en fait, c'est que Gaëlle... écrit ses textes au fur et à mesure de l'écriture de ce qu'on fait au plateau, et en fait elle nous écrit des textes qui sont faits pour nous, enfin vraiment, donc ils arrivent au dernier moment, mais en même temps en fait ils arrivent sur la danse, ils arrivent sur la chorégraphie, donc ça c'est génial. Et elle les écrit aussi, je crois, au fur et à mesure, enfin tu me dis si je me trompe, hein, mais au fur et à mesure du processus créatif aussi, parce qu'elle nous inclut dans le processus créatif. Donc il y a beaucoup de choses qui sont discutées entre nous, on passe pas seulement du temps à danser, on passe notamment sur ce spectacle où nous, performeurs, performeuses, on a eu beaucoup notre mot à dire, on a beaucoup participé à l'écriture dramaturgique aussi, au sens que les images créaient, et on a aussi pu, avant le spectacle, relire le texte, faire des commentaires sur ce qui nous semblait juste ou pas.
Et par exemple, qu'est-ce qui a pu faire débat, justement,
dans
le texte, pour vous, singulièrement de...
Ouais, pour nous, particulièrement, en fait, il y avait aussi toute la question de... Laure est sûrement une issue de l'esclavage, donc il y avait toute une partie du texte que Gaëlle avait écrit, beaucoup sur la question de l'esclavage, de la traite négrière, etc. Et ce que nous, on lui a dit, c'est que ce qui nous intéressait dans ce spectacle, et ce qui, moi, m'a intéressée et m'a passionnée dans la découverte du 19e siècle, c'était plutôt d'ouvrir un imaginaire sur le Paris du 19e, sur le Paris populaire, où il y a des personnes noires, des personnes qui viennent peut-être de plein de pays, on sait même pas trop d'où ils viennent. Enfin, je pense à Jeanne Duval qui disait pas son nom, qui disait pas son nom de famille, on sait même pas.
Donc,
si
Jeanne
elle
Duval
s'appelle
qui a beaucoup inspiré
Jeanne
Baudelaire,
Duval, voilà, notamment. C'est ça. Et du coup, plutôt d'imaginer en fait toutes ces personnes aussi qui faisaient partie du monde artistique, que d'imaginer aussi qu'en fait il y avait des personnes noires qui participaient à ce monde. Donc, Gaëlle a beaucoup aussi écrit elle cite des noms d'artistes qui étaient là. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que d'ouvrir des représentations du passé qui en fait raconte aussi notre présent. Enfin, on est beaucoup à une époque où la question justement des artistes noirs, des artistes racisés dans le milieu de l'art revendique des places, alors qu'en fait ça fait déjà deux siècles qu'ils sont déjà dans le milieu artistique. Voilà.
Les tableaux peints par Victorine Meurent ont quasiment tous disparu. Elle avait pourtant exposé plusieurs fois au Salon officiel des Beaux-Arts de Paris. On sait qu'elle y avait été admise pour la première fois avec un autoportrait. Seulement deux tableaux d'elle ont été retrouvés. Ils sont accrochés au musée municipal de Colombes, en banlieue parisienne. Colombes, c'est à côté de Gennevilliers, là où la famille de Manet avait une belle propriété, avec un grand jardin rempli de pivoines. C'était la mode, les pivoines. C'est à Colombes que Victorine finit sa vie, oubliée de tous et assez pauvre. Elle vivait avec sa compagne, Marie Dufour, qui était musicienne comme elle. Victorine partageait avec Manet le goût pour les femmes. On croit souvent que les femmes modèles étaient les maîtresses des hommes qui les peignaient. C'était vrai quelquefois, mais pas toujours. Au 19e, il y avait déjà des femmes qui étaient lesbiennes.
Et hop, Gaëlle Bourges, en une minute, hein, à peine une minute, vous faites litière de plusieurs clichés, là, comme ça, puisque vous dites, eh oui, il y avait aussi des femmes artistes au 19e siècle, et vous dites, eh oui, au 19e siècle, il y avait déjà des femmes lesbiennes, ce dont tout le monde se doute quand même, plus ou moins, mais on goûte ici une certaine ironie qui passe aussi au regard de la société contemporaine, pour le coup.
Bah, vous dites que tout le monde le sait, mais je ne sais pas si tout le monde le sait qu'il y avait déjà des femmes lesbiennes. Il y a des gens qui pensent que c'est mal, même encore aujourd'hui, non ?
Ah, mais ça, c'est la question de la morale. Ça, c'est la question de la morale. Oui. Mais dire qu'il y en avait avant notre époque, ça me semble assez évident.
Oui. Bah, en fait,
mais c'est bien de le dire. C'est ça que...
Bah, en tout cas, le spectacle s'adresse aussi à des enfants à partir de 9 ans. Ça, c'est les programmateurs, programmatrices voilà, qui fixent l'âge légal pour voir le spectacle. Mais c'est pas forcément évident pour les enfants. Alors ceux qui ont des sensibilités homosexuelles pressentent déjà qui vont pas être dans la norme de papa maman un homme une femme. Mais ceux qui n'ont pas du tout cette sensibilité là et qui n'ont pas de petits camarades qui leur parlent de ça, est-ce qu'on parle de ça à la primaire déjà? Je suis pas sûre.
C'est pas certain.
On en parle plus, enfin en tout cas en France, on en parle plus que même à mon époque, mais ben c'est bien qu'ils le sachent. Je vois souvent des réactions d'enfants. Moi, je suis en régie derrière et j'ai souvent des enfants devant moi qui rigolent ou qui disent c'est quoi lesbienne. Enfin, ça, je pense que ça. Vous êtes grand, mais rappelez-vous quand vous étiez petit, cher journaliste. Est-ce que vous saviez ça, qu'il y avait des lesbiennes au 19e ?
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père, un
insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère, ouais, des claques qui s'en ébouffaient. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Ah, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête.
Et vous l'avez reconnu dès la quatrième note. Noémie Makota, il s'agit de...
Iseut,
voilà, avec son titre Corde en VMDN sur RFI avec la chorégraphe Gaëlle Bourche et Noémie Makota, une des performeuses à l'affiche de ce spectacle, une des chanteuses aussi, puisque vous me disiez hors antenne qu'on entend également votre voix et celle des autres performeuses dans le spectacle.
C'est ça.
Comment est-ce que vous les avez choisies, ces quatre danseuses, Gaëlle Bourche? On va donner leur nom, hein, puisque aux côtés de Noémie Makota, il y a Carissa Bledsoe, Hélène Hérault et Julie Voiseau.
Ben, je ne choisis pas vraiment, en fait. C'est... Disons que je rencontre des gens, et puis si là, quelque chose passe bien entre nous, au prochain projet, je propose aux gens de travailler avec moi.
Alors, comment vous les rencontrez, ces gens-là?
Alors, Hélène Hérault et Noémie Makota, bah, peut-être tu peux raconter comment on s'est rencontrés, Noémie, parce que...
On s'est rencontrés au laboratoire chorégraphique à l'université à Poitiers. En fait, c'était un programme qui est fait pour les étudiants et étudiantes. Et dans le cadre du festival Accords de la scène du théâtre de Poitiers, théâtre auditorium de Poitiers, ils invitent chaque année un chorégraphe, une chorégraphe à faire des pièces avec les étudiants et étudiantes. Et j'en ai fait partie. Je ne sais pas trop pourquoi j'étais là, mais ouais. J'ai rencontré Gaëlle. Et un an après, elle nous a proposé avec Hélène de performer dans son spectacle.
Voilà. D'où l'importance des ateliers chorégraphiques.
Ouais.
Partout en France, parce que c'est des étudiants et étudiantes qui n'étaient pas forcément, qui se dessinent pas forcément du tout à devenir danseurs ou danseuses. Et là, j'ai proposé ça à Hélène, Noémie, puis à deux autres aussi camarades qui ont fait partie d'un autre spectacle, de participer à l'aventure, à une aventure professionnelle. Et puis ça perdure. On a fait un premier spectacle qui s'appelle Le Bain, et puis là c'est le deuxième. Julie Voiseau, c'était une l'amie d'un ami, qui a commencé à venir voir beaucoup les spectacles et que je sentais très investie, qui aimait beaucoup mon travail et qui, tout simplement, elle donnait un coup de main au démontage. Enfin, il y a des gens comme ça que je trouve chouettes. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui avait une formation aussi en spectacle vivant. Mais il y a des gens, beaucoup de gens qui n'ont même pas de formation en spectacle vivant, qui ont d'autres formations et qui finissent par débouler sur scène avec moi. Et j'aime beaucoup ce mélange aussi hétéroclite de gens divers et variés.
Il fallait des corps noirs et des corps blancs.
Alors, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais parce que, encore une fois, noir et blanc, je trouve ça très réducteur par rapport à... Je pense que c'est bien si on arrive déjà à parler autrement de nos couleurs de peau. Enfin, déjà, c'est super de signaler qu'on a aussi, nous, des peaux rosées et puis d'autres qui ont des peaux plus brunes. Mais oui, ça me semblait, pour le travail sur Olympia, oui. Mais Noémie est déjà dans le bain, donc, et Noémie est métisse. Donc, elle était déjà dans le bain. Et d'ailleurs, la présence de Noémie dans le bain a fait aussi que tout à coup, on trouve utile ensemble de travailler avec dans le bain, on faut peut-être dire deux mots, on reconstruit des scènes de baignade très connues dans la peinture occidentale, soit une Diane au bain, donc une Diane, la déesse chasseresse qui tue Actéon en le faisant dévorer par ses chiens, et une Suzanne au bain, qui est cette jeune femme de Mésopotamie qui manque de se faire violer par des hommes, donc un sujet tout à fait pour les enfants, comme chacun le remarque,
oui.
Parce que c'est un spectacle pour les enfants. Et Noémie, donc, venant de Poitiers, débarquer dans ce travail-là. Et c'est vrai que par le militantisme aussi de Noémie, sur la place, la non-place ou la pauvre place des artistes racisés dans le spectacle vivant en France, on a dialogué beaucoup avec toute l'équipe, d'ailleurs, sur ces questions-là. Et justement, là, on a décidé aussi ensemble de mettre des poupées racisées dans le spectacle pour représenter Suzanne, qui est de Mésopotamie, qui est une juive du Moyen-Orient. Et donc, on trouvait ça bizarre qu'elle soit vénitienne comme Tintoret la montre. Donc, c'est aussi ce spectacle-là qui a... voilà, les discussions avec Noémie qui ont fait que, retrouvant devant le modèle de l'or à l'exposition en 2019, j'ai envie, avec Noémie et ses camarades du bain, plus Carissa Bledsoe, qui est donc une performeuse américaine que j'ai rencontrée dans un autre stage ailleurs, et qui est une personne racisée, de faire Olympia. Voilà, c'est vraiment en fait, c'est souvent des glissements. Enfin, une pièce produit l'autre, en fait, déjà. Et c'est plutôt la pièce et les gens avec qui je travaille, avec qui on discute. Et déjà, il y a l'embryon d'une prochaine pièce. Donc là, je pense que vraiment, c'est aussi grâce aux baigneuses. On s'auto-nomme les baigneuses. Là, c'est les lorettes. Chaque pièce produit déjà l'embryon de la prochaine.
Il s'agit donc ici de l'Olympia de Manet, hein, on le disait, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Olympia, un tableau largement inspiré, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure vous-même Gaëlle Bourges, de la Vénus d'Urbino du Titien, et vous le racontez aussi d'ailleurs dans le spectacle.
Le modèle de la Vénus du Titien était sans doute une femme de mauvaise vie aussi. On disait courtisane au XVIe siècle. Manet a donc tout repris à Titien, mais il a rendu le tout plus rugueux. Il a redressé la tête penchée de Vénus, remplacé le petit chien par un chat, aplati l'espace arrière pour le plaquer contre le lit. Dans Olympia, il n'y a plus de fond, plus d'histoire, plus de perspective. La Vénus est devenue une travailleuse du sexe officiel. Une des deux caméristes a disparu. Celle qui est seule à s'affairer dans la chambre d'Olympia est aussi importante que la femme nue allongée. Elle n'est plus au fond, elle est juste à côté du lit, et elle tend le bouquet. Ce sont deux femmes parisiennes en train de travailler. Plus de coffres, plus de robes à lacets, plus de pots de myrte. Juste un gros bouquet de fleurs colorées, offert par un bourgeois qui attend son tour pour entrer. Dans Olympia, on sait qu'on est au XIXe siècle. On voit sa dureté. La colonisation et l'industrialisation ne vont pas faire que des heureux. Le 19e, c'est un siècle de violence et de fureur.
Et tout en entendant les mots, Gaëlle Bourges, on voit les danseuses construire sur le plateau les différents tableaux dont il est question dans le spectacle, avec des gestes et des déplacements extrêmement lents, ce qui fait que le tableau apparaît à chaque fois extrêmement progressivement. Pourquoi cette lenteur ?
Peut-être déjà pour être en accord avec l'état dans lequel moi j'essaie de mettre quand je regarde la peinture, qui est un temps de contemplation plutôt, enfin quand on a un peu de temps en fait. Hein. Moi je suis intermittente du spectacle, donc inscrite au chômage, donc je rentre gratuitement dans tous les musées nationaux, donc je peux passer un quart d'heure sans payer pour voir Olympia au musée d'Orsay. C'est pas mal, non ?
C'est pas mal, vous avez de la chance. Ça,
voilà, j'ai de la chance. C'est pour ça que je le note, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je pense que ça... Ce qui est beau dans la peinture, et ce qui est insupportable aussi certainement pour des gens plus jeunes qui ont l'habitude de voir des choses, des images qui vont beaucoup plus vite, enfin le cinéma ou les séries, c'est que c'est des choses immobiles, effectivement, qui ne bougent pas. C'est juste son regard qui bouge, on peut se déplacer, etc. Mais c'est un temps lent, d'où le temps lent qu'il y a sur le plateau pour construire l'image. Déjà, imaginez aussi le nombre d'heures à peindre un tableau, ça ne se fait pas... pas une photo sur un smartphone, en fait. Il faut beaucoup de temps pour peindre.
Alors, c'est une vraie contrainte, la lenteur, Noémie Makota, parce qu'on se dit que la lenteur, quand on danse, ça ne pardonne pas, quoi. Il faut vraiment un travail de précision, un vrai travail d'orfèvre.
Bah, c'est surtout que c'est un gros travail d'écoute, déjà entre nous, au plateau, entre interprètes. C'est un travail d'écoute de soi aussi. Gaëlle nous invite beaucoup à être dans la perception de nos, enfin dans nos perceptions, dans nos sensations. Elle a un rapport vraiment à la gravité. On travaille beaucoup sur les marches, par exemple. Donc notre travail de danse, c'est de marcher. Et en fait, ça fait 4 ans que j'apprends à marcher sur un plateau. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais.
Il y a les déplacements, il y a les gestes très lents, et puis il y a aussi le regard. Comment est-ce que vous avez travaillé votre regard, Noémie Makota ?
Comment est-ce qu'on a travaillé ? En fait, Gaël nous a dit qu'on devait encore travailler notre regard. c'était ça qu'il fallait encore travailler.
Mais comment ça se travaille, un regard ? Parce que ça ne se muscle pas comme un corps. On ne peut pas répéter à l'infini un regard, si ?
Bah, déjà, le regard, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est justement qu'il y a des regards, contrairement au bain, il y a des regards aux spectateurs. Donc, déjà, c'est assez marrant de prendre la pose de l'Olympia. Donc, je suis censée être nue. Bon, je suis complètement habillée, hein, mais.
Oui, il n'y a pas d'unité dans le spectacle, non, d'ailleurs, ce qui peut étonner quand on regarde les, voilà. les spectacles précédents de Gaëlle Bourges, dont on sait que ce n'est pas forcément la plus prude qui soit. Pourquoi il n'y a pas d'unité, d'ailleurs, sur le plateau Gaëlle Bourges?
Il faudrait demander aux gens qui veulent bien programmer des spectacles pour enfants.
Voilà, donc c'est voilà. tout simplement pour cette raison-là. Bah, il n'y a pas d'autre
oui.
raison.
Alors après, je m'autocensure, hein, j'aurais pu essayer. On aurait pu essayer, mais je pense qu'on ne tournerait pas autant.
Ouais,
c'est compliqué. Même les spectacles qu'on fait, où on est nu, les théâtres mettent une note conseillée à partir de 16 ans. Donc là... Si on était nu dans la bande à Laura, je crois que ce serait même les lycéens. Là, ça pose même
pour toucher le jeune public.
Oui, ça peut même poser un problème de montrer l'Olympia de Manet en classe, la peinture. Mmh. Donc d'être nu sur un plateau, on se couperait complètement de tout un. Puis nous, l'idée, c'est que plein d'enfants voient le spectacle, en fait.
Et puis dans le spectacle, il y a aussi plusieurs scènes de ronde, hein, où les quatre performeuses incarnent plusieurs rôles successifs en se passant souvent des accessoires ou tel élément de costume. L'idée, c'est donc de casser un peu tout risque d'assignation. Hein. C'est bien ça, Gaëlle Bourges.
Oui. Bravo.
Mais pourquoi cette importance aux objets dans votre travail chorégraphique? On a l'impression que les accessoires sont importants. Si vous me passez
Alors justement, ils ne sont pas accessoires, en fait, du tout. Ils sont le centre même du travail. C'est vraiment une danse d'action qui déplace des objets. C'est une danse d'objets, en fait.
Donc les objets dansent en même temps que vous, Noémie Makota, un objet, c'est un partenaire, alors, dans un spectacle comme celui-ci.
C'est un partenaire avec lequel il faut bien s'entendre.
Ah, ouais, parce que parfois, il se rebelle.
Ah, mais parfois, il se rebelle. Les tissus se rebellent beaucoup. Il y a certains accessoires qu'on adore, d'ailleurs. On ne sait pas trop pourquoi.
Par exemple.
Les peluches, les petits chats, les petits chiens.
Ah, moi, d'accord.
J'adore.
Donc, effectivement, on va installer le divan. Ce sera intéressant.
Non, mais c'est vrai, il y a des moments où simplement le fait d'étendre un drap, ça crée une sensation d'une légèreté, d'une allégresse, alors qu'en fait on tend juste un drap sur la musique de Marie-Jaël derrière aussi qui est magnifique. Et y a certains autres objets qui nous font un peu plus, qui sont plus difficiles en fait, parce qu'ils sont difficilement malléables par exemple. Donc c'est de vrais partenaires, c'est de vraies relations en fait qu'on crée avec nos objets.
Et puis il y a aussi ces panneaux blancs qui sont là d'un bout à l'autre du spectacle. Ce ne sont pas des accessoires comme les autres là pour le coup, Gaëlle Bourges. Ils sont particuliers.
Ce sont des châssis en fait prêts à l'emploi qu'on n'emploie pas d'ailleurs pour peindre, qu'on laisse blanc, mais ce sont des châssis. C'est tout simplement pour faire signe. De la peinture, ça signe la peinture.
Et comment est-ce que vous avez appréhendé l'espace du plateau? Parce que une chorégraphe, vous me dites si vous êtes en désaccord avec moi, mais une chorégraphe, c'est aussi une plasticienne d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui appréhende l'espace.
Oui, je pense que la danse, c'est un travail sur l'espace et c'est au cœur du travail. Je pense, enfin, c'est la première chose que je fais, c'est que je travaille déjà sur un dispositif avant de rencontrer mes camarades en studio de danse. Sur quel dispositif d'espace je vais proposer de nous lancer. Donc, j'aime beaucoup le vide, déjà, pour commencer. J'aime beaucoup les espaces vides, d'où on est toujours acculé au fond, à droite ou à la face, à gauche. Enfin, on dit court-jardin dans notre jargon.
Oui,
mais...
absolument.
Et l'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment que des passages éphémères au centre. J'aime beaucoup les espaces vides.
Ouais, il y a un travail aussi sur les ombres, sur la lumière, sur la projection des ombres. Est-ce que la question du beau, la question de l'esthétique est quelque chose qui vous obsède quand vous faites des tableaux chorégraphiques eu égard justement aux tableaux picturaux, Gaëlle Bourges?
Alors, pas du tout. Je vais vous
déjà répondre. Je m'attendais
longue,
à cette longue, réponse, figurez-vous.
Longue déception, une émission déceptive pour le journaliste.
Non, mais je m'attendais à cette
êtes.
Réponse, voyez.
Non, mais le beau, qu'est-ce que c'est que le beau? Alors là, si vous avez la réponse.
Eh bien, ce sera peut-être l'objet d'un spectacle, qui sait.
Ou d'une prochaine émission.
D'une prochaine émission. Voilà. Bon, dernière petite question, Gaëlle Bourges. Il y a une scène où on est vraiment dans une atmosphère de cabaret, une ambiance un peu boîte de nuit, une boule à facettes. Enfin, c'est vraiment une scène qui tranche complètement par rapport au reste. Alors, je ne sais pas si vous parlez de scène ou de tableau, peu importe. Vous avez besoin de ce moment-là dans le spectacle?
En tout cas, c'est la faute de Manet, hein, puisqu'il a fait le bal masqué à l'opéra. C'est un tableau qui... Alors, il ne montre pas des boules à facettes, mais on sent que les gens vont faire les fous. Ils sont déguisés, costumés, ils ont tous des loups sur les yeux. Et on sait d'ailleurs, de façon, enfin, sur le plan sociologique, qu'il y avait des bals à l'opéra qui étaient des espèces d'orgies nocturnes. Donc on donne ça à voir avec nos petits moyens du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une orgie devant les enfants de 9 ans. Mais voilà, on propose des figures masquées qui sont folles le temps d'une danse, en fait.
Merci beaucoup à toutes les deux, Gaëlle Bourges et Noémie Makota. La bande à Laura, c'est dans le cadre du Festival d'automne du 1er au 5 décembre au Théâtre des Abbesses, du 15 au 18 au Théâtre du Noy, et ensuite, un peu plus tard, le 13 février au Théâtre de Choisy-le-Roi, en région parisienne. Et puis en parallèle, l'autre spectacle sur la restitution des œuvres aux Abbesses du 2 au 6 décembre. On va terminer en musique avec la 4e édition du Charabia Festival, un rendez-vous musical dédié à la langue française et à la poésie dans tous ses états, qui a débuté la semaine dernière à Reims, dans l'est de la France. Hortense Vol était sur place.
C'est le chanteur rémois Barcela qui a créé en 2016 le Charabia Festival. Et ce terme, charabia, il ne l'a évidemment pas choisi par hasard.
Le mot charabia a une petite saveur, un petit sucre comme ça, je trouve, quand on le prononce, il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis c'était une belle étoile pour moi, parce que c'est le nom de mon deuxième album. Et voilà, je pense que c'est pour célébrer l'amour des mots, un amour sans frontières, l'amour de la langue française, et essayer de valoriser, quelle que soit la couleur musicale, les histoires que les auteurs viennent nous raconter. On a dit
pas le temps d'en perdre. En 5 ans, le Charabia Festival a bien grandi. On est passé de 3 à 10 soirées, non plus seulement dans une salle, mais dans 3, sans compter les médiathèques et autres musées. La recette de son succès ? Une programmation de qualité qui allie tête d'affiche, Catherine Ringer, les têtes raides et soutien farouche à la scène émergente francophone. Vendredi dernier, par exemple, à la Cartonnerie de Reims, la rappeuse et danseuse Fanny Poli se produisait en première partie de Gaël Faye. Pour cette trentenaire originaire du sud-est de la France, ça voulait dire beaucoup.
Bah, jouer en première partie de Gaël Faye, c'est symboliquement pour moi, c'est important parce que je l'ai découvert moi quand je suis arrivée à Paris il y a 10 ans. Je me rappellerai toute ma vie, je pense, de cette scène parce que c'était à la Villette et je m'attendais pas du tout à ça. J'allais pour une répète de danse et je suis tombée sur un concert de lui avec son groupe. J'ai pris une claque de hip-hop en pleine tronche. Franchement, le concert, il était ouf. Ça m'a beaucoup inspiré, en tout cas, le bonhomme, l'histoire, la musique. Donc là, le voir, en plus, être en première partie, c'est grand honneur.
Gaël Faye, en très grande forme, a lui fait honneur au public rémois. Il faut dire qu'à Reims, Gaël Faye est à la maison. C'est la ville natale de sa femme, qui était d'ailleurs dans la salle comme une grande partie de sa famille. Et c'est le siège du collectif des partis civils pour le Rwanda, le CPCR, dont il est le secrétaire. Et puis le Charabia Festival, c'est un événement dédié à la poésie dans tous ses états. Et Gaël Faye, la poésie, c'est, pour reprendre ses termes, son moteur, son matériau premier.
J'essaye de trouver des formes qui me permettent d'exprimer un regard poétique sur le monde. Alors ça peut être une chanson, ça peut être un roman, un film, mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver la poésie. Donc quand on dit poésie, ça a l'air vague tout ça, mais pour moi c'est ce décollement avec la réalité, c'est entrevoir un monde un peu différent de ce que l'on perçoit directement avec les sens. Et donc, je pourrais arrêter de tout faire, c'est-à-dire de chanter, d'écrire, mais je ne pourrais jamais arrêter d'écrire de la poésie. Et j'ai commencé par ça, et je sais que c'est ce qui m'accompagnera jusqu'à la fin.
Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'accrètent à la terre. Le Charabia Festival, le rendez-vous des amoureux des mots et des oreilles curieuses, c'est jusqu'à ce samedi 4 décembre à Reims, avec notamment Iseut, Thomas Dutronc ou encore Alain Damasio et Yann Téchant.
Reportage d'Hortense Vol dans un instant, le journal sur RFI à demain avec Xavier Duringer et Clarisse Kaplan pour leur spectacle Joséphine B, un biopic théâtral sur Joséphine Baker qui, comme vous le savez, entre demain au Panthéon et vous m'en direz des nouvelles. RFI.